Il est 8h09 minutes et vouloir d'avoir s'acheter, de vouloir s'acheter une maison, ça peut être un rêve, mais des fois, si les choses vont de travers, ça peut être un cauchemar, comme on dit. Mais il y a des gens qui sont là, des professionnels, pour nous aider. On a un avec nous ce matin, il est courtier en immobilier, puis également, c'est un porte-parole. Il dit, on va prendre le meilleur, c'est le porte-parole de Royal Lepage. Bonjour, Francis Vallée, ça va bien ce matin?
Bon matin, M. Van, ça va très bien, merci, vous?
Ah oui, ah oui, écoutez, il fait beau, la température est parfaite, il fait chaud, mais ça prend à climatiser. Ce matin, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, avant la pandémie, avaient l'intention, ou ont peut-être déjà vendu leur maison, en cherchaient une autre, la pandémie arrive, ça change la donne, et au travers de tout ça, il y a des professionnels dans le domaine comme vous qui est là, et vous devez négocier avec ça. Comment vous avez vécu cette expérience de la pandémie? Puis c'est pas encore terminé, là.
Non, en fait, c'est pas terminé et en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on a une vague de marché de vendeurs actuellement dû à cette pandémie? On a un excellent marché en début d'année, on parle des mois de janvier, février, mars et par la suite, on a eu un 2 mois et quelques semaines d'arrêt complet pratiquement là, au niveau des de l'activité immobilière. Et puis depuis le 11 mai, là, on voit une très grande demande de la part des acheteurs. Où est-ce que les vendeurs ont peut-être un peu moins la porte ouverte à mettre leur propriété en vente? Alors, on se retrouve avec un marché de vendeurs très très prononcé. Et puis, les propriétés se vendent rapidement et surtout au-dessus du prix demandé. Alors, on s'ajuste et on s'adapte à travers tout ça.
Il y en a même qui vont pousser pour avoir un plus gros profit, là. C'est pas vous qui êtes occupé de la vente, qui êtes occupé de la vente du terrain de Radio-Canada, là.
Non, je n'étais pas impliqué. Pas dans celle-là.
Non, mais je pense. Par exemple, je pense à quelqu'un qui met sa maison à vente et décide de se faire construire une maison. Exemple, au mois de janvier, ma maison est vendue et là, je décide de faire construire une nouvelle maison, une nouvelle demeure. Sauf qu'avec la COVID, les travaux qui arrêtent et tout ça, ça cause quand même des maux de tête aux gens, autant pour les gens qui veulent arriver à leur nouvelle maison toute neuve, puis ceux qui ont vendu la maison qui était là, comme dans votre cas. Alors, comment vous négociez avec ça?
En effet, le gros challenge de ce côté-ci qu'on voit actuellement, c'est pas de vendre les propriétés. Parce que les propriétés, quand on les met sur le marché, je vous dirais qu'en dedans de... Ça veut dire 7 jours gros maximum, les propriétés sont vendues. Donc, on se retrouve souvent en offre d'achat multiple, un prix qui est excellent, des fois qui est même bonifié. Donc, on vend plus cher que ce que le client s'attendait ou pouvait même espérer. Mm-hmm. Où est-ce qu'on retrouve, comme je dis, le challenge, c'est de trouver une prochaine propriété. Alors, d'être capable de se retourner de bord puis de dire « j'ai vendu plus cher, j'ai fait un bon profit, mais je me trouve aussi avec un prix supérieur que je vais payer ». Et ma diversité, mes options lorsque je décide de me trouver une propriété deviennent, disons, un petit peu plus délicates à ce niveau-là. Il y en a qui vont opter vers la construction neuve. Ouais. Puis, encore une fois, on parle de délai. Donc là, on dit, je vais me construire, mais j'ai vendu rapidement. Est-ce que je suis placé? Je suis en bonne position de pouvoir dire, je débute mon projet qui va être construit dans 3-4 mois, tout simplement. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Côté achat, du côté vente, on ne se casse pas la tête, tout va bien. C'est du côté achat quand il faut se retourner de bord rapidement.
Et là, bien évidemment, c'est pour ça que probablement que les gens vont se tourner plus vers une maison qui est déjà construite, une maison qui est usagée, qu'aller vers une maison neuve parce que là, on est dans l'insécurité, non?
Exactement. Puis encore une fois, on se retrouve à dire notre acheteur qui se retourne de bord n'a pas beaucoup d'options et quand il trouve sa propriété qui peut l'intéresser malgré qu'il va faire des concessions ou des sacrifices parce qu'il n'en a pas beaucoup, bien, l'intérêt de plusieurs acheteurs convoité pour cette même propriété, donc de là à dire que c'est un très gros marché de vendeurs actuellement.
Mais si on regarde le prix médian d'une copropriété qui a augmenté de 7% dans la région de l'Outaouais, malgré la situation économique qui est difficile, est-ce que c'était une surprise pour vous?
Oui, d'une certaine part. On s'attendait à une bonne reprise du marché définitivement au niveau de l'unifamilial, même au niveau duplex, donc l'investissement. Par contre, la copropriété qui est encore en développement dans la construction neuve, peut-être qu'on s'attendait à une moins grosse augmentation au niveau de la fourchette de prix, mais à notre grande surprise, encore une fois, même la copropriété se démarque avec une augmentation de prix et un peu la même réalité au niveau de l'offre d'achat multiple et de la surenchère dans ce type de vente.
Oui, il y en a qui abusent un petit peu, par exemple. Êtes-vous d'accord avec moi?
Ça peut aller des deux côtés. Je pense pas que c'est une question d'abus, de mon avis. C'est plus une question de « j'ai pas le choix, j'ai vendu ma maison ». Donc, à un moment donné, il faut que je me retourne de bord. J'ai besoin d'un nouvel endroit pour pouvoir me relocaliser. Et puis là, à un moment donné, tu te dis « ben, c'est soit que j'offre le plein prix ou j'ai pas de place à aller, donc je vais offrir beaucoup plus pour m'assurer de savoir où je m'en vais ».
à défaut d'aller vivre chez la famille là, à ce moment-là. C'est ça qu'on va payer un petit peu plus cher à ce moment-là.
C'est ça, exactement.
Là, les agents d'immeubles, les gens comme vous qui êtes dans l'immobilier, vous allez suivre vos cours, vous faites partie, vous avez quand même l'éthique, vous avez un regroupement, vous avez une association. Et là, je ne veux pas nommer, mais il y a des compagnies qui vendent des maisons, comme on dit, sans profit pour le vendeur. Est-ce que ça vous met les bâtons des roues ou vous rendez compte qu'à un moment donné, les gens se disent « ben non, je vais retourner avec la vieille méthode de faire affaire avec un agent d'immeuble qui, lui, va avoir une commission, mais qui est un professionnel dans le domaine? »
C'est définitivement un bon avantage pour le vendeur et pour l'acheteur là, d'utiliser un professionnel à ce niveau-là. Il va toujours avoir le monsieur qui prend le risque de vendre par lui-même et qui se croit bon vendeur et tout. Donc, ce client-là a toujours existé. Par contre, de nos jours, les gens ne veulent pas nécessairement prendre la chance de se retrouver avec des problématiques X suivants ou même pendant une transaction, de là s'appuyer d'un professionnel. Et en même temps, on constate avec le temps que nos acheteurs qui utilisent les services du courtier sont tout à fait gratuits. Alors, notre acheteur dit, ben, j'ai le choix de magasiner par moi-même et puis de prendre des risques ou de m'appuyer avec un professionnel, d'être bien encadré, bien structuré au niveau des lois et de la protection. Et tout ça, tout à fait gratuitement. Alors, c'est sûr et certain que lorsqu'on se retrouve à mettre une propriété à vendre, qu'on est 500 courtiers en Outaouais pour essayer de vendre cette seule propriété, bien, ça crée de l'engouement, ça crée de l'achalandage. Et puis, à travers tout ça, les deux parties sont bien protégées, bien alignées. On évite toute situation délicate éventuellement.
Oui, parce que la plupart du temps, à ce moment-là, tu as deux agents. Tu as celui du vendeur, celui de l'acheteur. Puis à ce moment-là, c'est entre eux que ça se négocie. Moi, j'ai vendu une maison il n'y a pas longtemps. C'est exactement comme ça que ça se passait. Puis ça devient quand même moins compliqué pour justement le vendeur ou l'acheteur.
Définitivement. Moins compliqué pour les deux parties. C'est notre domaine, c'est notre profession. Fait que oui, il y a une protection à travers tout ça, mais il y a tout le côté que vous n'avez pas à vous occuper là, de préparation de la maison et les visites et gérer tout ce qui vient avec la mise en marché comme telle. Donc oui, définitivement un avantage pour les deux parties, tout à fait.
Moi, je veux savoir une chose. Tu vois une maison qui est à vendre et puis tu veux l'acheter, tu es intéressé à l'acheter. Il y a un nom de l'agent d'immeuble. Bon, que tu veux, tu t'appelles ou t'appelles l'agent d'immeuble. Est-ce que c'est avantageux pour une personne de faire affaire avec un agent d'immeuble, donc autrement dit le vendeur et l'acheteur, ou souvent on est mieux d'en avoir un de chacun de notre côté? Parce qu'il y en a qui, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent, ouais, mais si tu en as juste un, tu peux négocier sur la commission, ou d'autres vont dire, non, tu es mieux d'en avoir un, d'en avoir deux, parce que lui va travailler pour toi, contrairement à l'autre qui travaille pour le vendeur. Est-ce que c'est vrai, ça?
Moi, je vais vous dire, trouvez-vous un courtier en qui vous avez confiance. Okay. Si jamais c'est celui qui inscrit la propriété, ben, puis ça donne que c'est lui qui va vous aider à acheter parce qu'il est là aussi le courtier inscripteur. Continuez avec lui. L'idée, là, c'est d'avoir le courtier en qui vous avez confiance, à qui vous voulez travailler et pour qui il va travailler pour vous dans la transaction. Quand on parle d'une transaction standard, bien entendu, là, c'est avantageux d'avoir un courtier qui travaille pour un parti, c'est-à-dire le vendeur, et pour l'autre partie, acheteur. Par contre, est-ce que ça fait en sorte que d'utiliser le même courtier pour vendre et acheter, donc le courtier inscripteur, en d'autres mots, pas nécessairement, mais en tout et partout, là, définitivement, je crois que l'idée de base, c'est de se trouver quelqu'un en qui on a confiance, puis qui va mener à bien, là, justement, la transaction pour les deux parties, définitivement, acheteur et vendeur.
Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'acheter une maison avec un courtier en immeuble, donc un agent d'immeuble. Oui. Ça m'est arrivé une seule fois. J'avais pris le même, quand j'ai acheté la maison, que le vendeur. Puis à un moment donné, c'est ça, tu te rends compte. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, parce qu'évidemment, tu veux défendre ton vendeur, puis l'acheteur, mais lui, de son côté. Mais il y en a qui ne savent pas. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne savais pas qu'on pouvait avoir... Puis de toute façon, j'en connaissais pas. Quand tu en connais un, c'est sûr que ça peut devenir ta personne de confiance. Mais si tu n'en connais pas, à ce moment-là, tu vas être porté à faire affaire avec le même courtier en immeuble.
Oui, définitivement. Quand on n'a personne, puis de là à dire qu'à un moment donné, on va commencer à visiter des propriétés, on appelle le courtier inscripteur, etc. Mais lorsque vous avez commencé à visiter et rencontrer différents professionnels, il y en a un à un moment donné avec qui ça va cliquer. Il y en a un à un moment donné avec qui vous allez dire, moi, c'est mon homme, c'est avec lui ou avec elle que je veux travailler, puis c'est avec lui que je veux continuer mon processus. Associez-vous, affiliez-vous à cette personne-là, parce que oui, définitivement, il va prendre part dans la transaction seulement pour votre partie. Et en même temps, il va vous aviser de toute nouveauté qui arrive sur le marché, de quoi faire attention, etc. Donc, cette personne-là, si justement vous la choisissez, c'est parce qu'elle est professionnelle, elle est compétente et en qui vous avez confiance. Associez-vous à ce professionnel-là parce que vous allez pouvoir le suivre tout au long du processus à partir du moteur de recherche jusqu'à ce que vous passiez chez le notaire.
Le home staging est toujours populaire avant de vendre sa maison, j'imagine. Hein?
Oui, c'est un bon plus d'être capable de bien présenter sa propriété. De nos jours, nos acheteurs regardent pour le côté clé en main. Donc, définitivement, d'avoir l'effet « wow » lorsqu'on rentre dans la propriété va avoir son impact. De là, des fois, à dire on a retardé un peu la mise en marché de quelques jours, mais on est allé chercher le côté clé en main, comme je viens de mentionner, va faire en sorte que au lieu de se retrouver avec peut-être une offre ou deux offres, vous allez peut-être en avoir 7-8 parce que, justement, les gens sont intéressés.
Bien, c'est toujours intéressant. Écoutez, ça nous aide, ça met la lumière sur le domaine dont vous êtes dans l'immeuble. Et puis, en tout cas, est-ce que vous avez un conseil à donner en terminant rapidement à quelqu'un qui pense actuellement vendre sa demeure ou en acheter une?
Je vais y aller du côté acheteur parce que vendeur, je vous dirais que vous avez le beau rôle actuellement. Je veux dire, acheteur, soyez rapide. Soyez actif. En dedans de 48 heures, pardonnez-moi, en dedans de 48 heures, les propriétés partent rapidement. Okay. Donc, le conseil que je donnerais actuellement, là, soyez rapide. Quand ça sort, appelez votre courtier pour qu'il puisse vous organiser une visite rapidement dans le but de pouvoir déposer votre offre parce que le marché de vendeurs est très actif actuellement.
Bien, un gros merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Porte-parole pour Royal Lepage, également courtier en immobilier. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on vous souhaite de vendre ou acheter ou de faire acheter plusieurs maisons encore. Francis Vallée qui est avec nous ce matin. Merci et passez une belle journée.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.